Sorcière, c'est le nom d'une série d'événements organisés par l'association arageoise La Claque à la bibliothèque Ludothèque Ronville à Arras Sud à partir de ce samedi. Pour en discuter, on a rencontré l'une des membres de La Claque.
Moi, c'est Cassandre. Je me suis engagée dans l'asso La Claque en janvier 2024. Après un parcours personnel aussi de recherche, alors même si c'est non universitaire, mais sur les questions des histoires des féminismes. Sinon, à côté de ça, moi, je suis prof qui est en train de se transformer en prof spécialisé tout doucement, avec toute la révolte qu'on peut avoir sur le retard pédagogique de nos institutions. Et sur le besoin aussi d'arrêter de parquer les populations. Qu'est-ce que ça veut dire un handicapé, pourquoi on se retrouve dans un IME et comment on fait pour vivre ensemble, donc que ce soit entre hommes et femmes ou bien entre valides et non-valides, entre jeunes, entre vieux. Donc c'est ma dynamique et à côté j'écris et ma formation initiale c'est une formation de philosophe, donc ça se ressentira je pense dans ma façon de présenter les enjeux de notre asso.
Alors justement, est-ce que tu peux présenter à nouveau hein, cette association La Claque à Arras ?
Oui, donc l'association La Claque est née fin 2022. Son but premier, c'est de permettre dans des villes qui ne sont pas des grosses conurbations, des grosses villes telles que Lyon ou Paris, l'accès à des stages d'autodéfense dits féministes. Donc pourquoi féministe ? Comment on se sent cela ? On parle de stages d'autodéfense féministe, c'est pas de l'aïkido, notamment pour les femmes. Tout ce qui est proposé en self-défense va être proposé par les arts de combat, les arts martiaux, et nécessite qu'on fasse un entraînement sur plusieurs années pour pouvoir se défendre. Les autodéfenses féministes, elles sont fondées sur autre chose que le physique, et quand on a un combat physique, il est mené pour pouvoir fuir. Et l'idée, c'est de pouvoir partager en sororité des techniques entre guillemets secrètes qui permettront à des femmes, dans une situation de combat où majoritairement elles vont être force contre force perdante, de pouvoir avoir des techniques qui seront surprises et qui lui permettront de pouvoir se dégager. Mais ça, c'est pensé aussi tout au sein d'un système d'autodéfense verbale, émotionnelle et morale et psychologique. Et donc, ce qui fait toute cette complétude en fait de cette proposition d'autodéfense, donc qui sont des temps en non-mixité, à comprendre au sens où des femmes avec ou sans vulve pourront être accueillies, mais qui sont réservées du coup à vraiment des femmes parce qu'elles sont dans cette société qui a une systémique machiste et misogyne, atteinte et attaquée parce qu'elles sont des femmes. À côté des stages d'autodéfense, donc qui sont le cœur de l'association, de pouvoir les permettre à moindre coût, aussi parce que dans les grandes villes c'est cher, c'est très cher, donc pouvoir permettre à toutes, avec ou sans vulve, à moindre coût, d'accéder à de l'autodéfense pour pouvoir s'auto-outiller, en fait, et sortir de cette posture de victime permanente. On a une médiagraphie, donc pourquoi médiagraphie ? En général, on parle de bibliographie, donc bibliographie, biblie, donc c'est les livres. Et donc on compile comme ça, on assemble non pas seulement des ouvrages livresques, donc que ce soit des livres pour enfants ou adultes, mais aussi des vidéos, de l'audio, du visuel, des répertoires de personnes inspirantes qui permettent en fait de construire et déconstruire des notions clés pour une société plus juste, à savoir donc la notion d'identité déjà qui est en soi un concept, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'identité, mais d'identité de sexe, d'identité de genre, et j'aurais tendance à ajouter d'identité de la relation. Donc en fait on propose des outils mentaux, des outils intellectuels pour une autodéfense intellectuelle, c'est la médiagraphie. Et on propose les outils qui sont tamponnés par l'association Contrepoint, qui est à Lille et sans laquelle on ne pourrait pas en fait, faire venir des formatrices de stages d'autodéfense féministe, donc avec du physique, du verbal, de l'émotionnel et du psychologique.
Et puis là, donc, cette année, c'est aussi la nouveauté. Vous organisez, vous co-organisez en tout cas un premier événement autour de cette figure de la sorcière. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous parler de cet événement et puis pourquoi cette figure choisie ?
Alors l'événement, il est en partenariat avec la bibliothèque Ludothèque Ronville. Ça nous tenait à cœur de pouvoir aussi s'intégrer dans un maillage sur le territoire. Comment est-ce que localement, les actrices peuvent s'unir pour pouvoir faire avancer les questions féministes, d'autant qu'elles sont souvent reliées à des stéréotypes et des faux débats dans l'espace public. La bibliothèque avait la volonté de pouvoir renforcer, c'est un mélange entre renforcer à la fois, aussi enrichir voilà, son fond sur de ces questions, donc d'identité de sexe, de genre, de relation. Et nous, on s'articule là-dedans comment ? Grâce à Amandar, qui est une artiste belge, donc qui dédie en fait son métier et sa vie à faire un famage. Donc famage, c'est la même racine que hommage, sauf qu'on a enlevé la notion de H-O-2-M pour mettre femme là-dedans. Pourquoi ? Parce que les femmes ont été oubliées, ont été évincées de l'histoire, et en particulier, du coup, cette fameuse figure justement de la femme sorcière, donc la chasse aux sorcières, qui a couru du 5e, 6e siècle jusqu'au... facilement jusqu'à la fin du Moyen-Âge, même si elle a eu une grosse période à un moment donné. Comment est-ce que pendant cette chasse aux sorcières, en Europe en tout cas, on a construit un archétype de la sorcière, où avant les femmes étaient donc considérées comme magiciennes, mais pas au sens d'une magie qui serait surnaturelle. Bien au contraire, les femmes étaient des magiciennes parce qu'elles connaissaient la pharmacopée, qu'elles étaient des pharmaciennes, des botanistes, des herbalistes. Elles étaient aussi des femmes qui connaissaient en fait l'obstétrique, comment on peut avorter, comment on peut accoucher. Et elles étaient aussi des invocatrices qu'on retrouvait sur les marchés, et qui en fait étaient ces invocatrices, une forme de foi qui crée de partage de paroles, donc pas foi au sens religieux, mais c'était de la foi populaire, c'est-à-dire qu'on échangeait des notions, des paroles, et ça crée un tissu social du paysan qui a été complètement détruit au moment de cette chasse aux sorcières. Donc ce qui veut dire que s'intéresser à la figure de la sorcière, c'est à la fois un enjeu pour comprendre l'histoire en tant que telle, comment est-ce qu'on a construit nos sociétés, comment est-ce qu'à un moment donné une société paysanne a basculé vers le pouvoir féodal, et comment ce pouvoir féodal est devenu capitaliste, un monde capitaliste. Donc on a déjà cette réflexion de déconstruire le capitalisme historiquement et sociologiquement, mais on a aussi comprendre qu'est-ce qu'on fait quand on fait des femmes qu'on bannit du savoir, qu'on bannit de la médecine, comment ça permet de casser du lien en fait entre les hommes et les femmes, comment ça empêche un peuple libre pour pouvoir asseoir des dominations. Et donc sous cette sorcière, on a commencé dans les contes à avoir une transformation qui a été liée à la christianisation aussi, où on a commencé à construire une figure qui allait jouer entre deux pôles du féminin dans lesquels on est encore coincé aujourd'hui, c'est-à-dire la femme pure et le démon. Donc la femme va être coincée, ou bien elle est mère, ou bien elle est catin. Et donc c'est un démarrage, cette chasse aux sorcières, de construction en fait d'archétype de la femme, où on a plein de stéréotypes du féminin qui en font un enjeu de danger, un enjeu de démon, qu'il faudra absolument dominer, maîtriser par le corps, par l'esprit, parce que, pour faire un exemple, par exemple, une des grosses questions qui revenait chez les inquisiteurs pour voir le niveau de perversion et d'absurdité historique, c'était à quoi ressemble le pénis du diable ? Vous avez vu le pénis du diable ? À quoi ressemble-t-il ? Donc on a une espèce comme ça de renversement et de mise en système social de la domination masculine, mais aussi de la domination masculine blanche. Donc une domination des femmes, une domination des paysans, une domination des étrangers. Et plus spécifiquement, pourquoi est-ce que nous, ça nous tient en particulier à cœur, donc au sein de toute cette intelligence historique finalement générale, humaniste, le levier féministe en particulier, c'est comment ça nous apprend à déconstruire, nous, aujourd'hui, le stéréotype de la femme sorcière. On n'a pas envie de devenir ma sorcière bien-aimée, on n'a pas envie de devenir une pseudo-chamane qui fait du rapt culturel et qui vide le chamanisme pour se prouver quelque chose. La femme sorcière, c'est quoi ? La femme sorcière, c'est ni une femme séduisante, ni une femme avec un nez crochu qui est affreuse. Donc on a toujours aussi cet enjeu, en fait, où le corps de la femme est tendu entre le diktat du sexy et l'interdiction à la laideur. Il y a énormément de femmes vieilles et dites moches qui ont été tuées en fait pendant les procès, parce que et celles qui étaient trop belles étaient tuées aussi. Donc c'est très inquiétant, parce qu'il fallait être quoi, je sais pas comment on pouvait se libérer de ça. Et du coup, dans ce fil d'idées, j'essaye de retrouver le levier que je voulais montrer. Mais c'est comment est-ce qu'on peut à un moment donné sortir des normes, que c'est non seulement un droit, mais c'est aussi une paix retrouvée, individuelle et collective. La femme sorcière, c'est la femme qui a été tuée, qu'on a fait taire. C'est la femme qui a été tuée, c'est la femme qu'on empoisonne, c'est la femme qu'on persécute. Il y a une femme roumaine elle était polyglotte, elle avait la puissance linguistique, elle avait la puissance sociale parce qu'elle était respectée, elle avait la puissance économique. Alors j'ai malheureusement plus les dates, et cette femme, on l'a emmurée vivante pendant 4 ans, parce que quand son mari est mort, elle a gardé son pouvoir. Et ça faisait peur. Donc pourquoi la chasse aux sorcières à la bibliothèque Ludothèque Ronville en 2025 ? Parce que en fait, ces questionnements-là ne sont pas qu'une histoire passée. Comment aujourd'hui encore, on va être coincé dans des stéréotypes du féminin ? Et comment on peut libérer à la fois les hommes et les femmes des stéréotypes de la masculinité et de la féminité qui obligerait que, par exemple, aujourd'hui, moi, je sois une Barbie et toi, un action man ?
Alors, comment ça va s'organiser cette discussion? Donc, il y a une invitée qui s'appelle Amande Hart, si
oui.
Je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait.
Donc, il y a une première rencontre. Alors là, c'est plutôt une rencontre pour les adultes. Ce samedi 8 mars à 15h, compte et conférence, c'est ça?
Oui, tout à fait. Donc, en fait, à 15h, en effet, on commence par un compte. Donc, c'est pour un public plutôt militant, mais qui peut être aussi non militant, mais adulte, parce que le compte sera pas compréhensible par des enfants. Et aussi la conférence, donc il y a à comprendre comme une conférence qui vient suivre le conte, une conférence gesticulée pour justement déconstruire toutes ces idées reçues sur les sorcières et partant pouvoir mieux cerner ce que la chasse aux sorcières nous apprend aujourd'hui et comment finalement la figure de la sorcière peut être un élément de joie féministe aujourd'hui, de sorte à ce que les combats féministes ne soient pas constamment conclus par la colère et l'impossibilité de dialoguer avec les personnes qui ne seraient pas peut-être féministes, même si comment on peut ne pas être féministe en 2025? Comment on ne peut pas penser que l'égalité homme-femme est nécessaire? Et donc, du coup, là, c'est vraiment pour le temps plus conceptuel, plus intellectuel, donc plus adulte. On peut aussi, juste simplement, si on ne veut pas aller à 15h à la conférence au compte, on peut aussi voir le compte et pas suivre la conférence. On peut aussi simplement aller voir les œuvres, en fait, d'Amande Hart qui seront exposées donc, de samedi 8 à mercredi 12 à la bibliothèque, qui sont des portraits qu'elle a peints à partir de ce que les procès nous racontent des femmes qui ont été tuées. Mais elle les a menées aussi en cherchant des modèles vivants. Donc encore une fois, on a cette jonction entre le passé et le présent. Et le mercredi, on peut revenir. Moi notamment, j'aimerais bien savoir comment on va expliquer aux enfants pourquoi est-ce qu'on a associé en fait des attributs à ce fameux archétype déformé de la sorcière. Pourquoi est-ce qu'on va lui mettre un chapeau pointu? Pourquoi elle va avoir toujours un chat avec elle? Pourquoi toujours un balai? Et de permettre aussi cette intelligence aux enfants de ne pas leur proposer des contes qui vont venir créer des formes normatives déviantes qui vont garder à l'intérieur de leur construction morale, à savoir qu'elles soient racistes ou qu'elles soient sexistes. Donc voilà, comment est-ce qu'un petit loulou ou une petite loulou de 6-7 ans peut tout autant penser et avoir accès à des contes qui sont dépollués en fait de toutes ces structures qui se sont insérées dans les contes et qui sont toutes ces normes de rejet de la différence et de discrimination de l'autre parce qu'il est différent.
Et c'est mon cœur ou bien le leur. C'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue.
Suite de notre entretien avec Cassandre de l'asso La Claque, qui organise donc la série d'événements sorcières à la bibliothèque Ronville à Arras.
Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Alors du coup, il y a votre association, il y a votre initiative, il y a aussi les initiatives portées par le collectif féministe arrageois. Bon, on sait, il y a aussi historiquement le CIDFF d'Arras, il y a d'autres associations qui existent, d'autres initiatives. Il y a un début de richesse collective et de diversité sociale au niveau du féminisme à Arras. Comment tu vois ça et est-ce qu'il y a un dialogue entre les gens? Parce que bon, par exemple, votre initiative, elle se passe au même moment que l'initiative du collectif arrageois. Comment ça se passe un peu?
Alors justement, là-dessus, on a communiqué, mais peut-être plus en aval qu'en amont, ce qui fait qu'on s'est chevauché dans les dates. Ça s'est causé par quoi? C'est très simple, c'est causé par le calendrier, samedi 8 mars. Donc, toutes les assos ou tous les mouvements ou tous les collectifs sautent, parce que c'est un temps peut-être à ce moment-là où cette journée-là, on va avoir une visibilité, peut-être un impact aussi, et finalement une légitimité qu'on n'aura pas à revendiquer par rapport à d'autres journées. Donc là, en effet, il y a un chevauchement entre notre proposition du samedi et la proposition du collectif. Donc il n'y a pas de choix à faire, il n'y a pas de camp à choisir. Et justement, il y a vraiment une complémentarité entre le collectif, qui lui va travailler déjà en collectif et non pas en association, sur Arras. Et donc ça permet, en fait, plus il y a d'initiatives et plus nous communiquons ensemble et plus ça fait sens, en fait, pour avoir un territoire qui se tisse et se construit dans l'invisible, dans ses façons de socialiser avec plus de justice et d'égalité. Donc je suis peut-être utopiste, mais en tout cas, en effet, si sur un territoire, on a le CIDFF qui est en lien avec nous, par exemple, pour nous aider à avoir accès à des outils concrets et fiables pour les ados qui sont, par exemple, les violentomètres, mais aussi pour certaines femmes. Si de l'autre côté, on a le collectif qui soutient notre événement et nous qui soutenons le sien, même si parfois il peut y avoir des chevauchements temporels parce que c'est dû aux engagements bénévoles de chacun, on a vraiment cette aspiration, c'est vraiment cette notion de maillage, c'est-à-dire qu'il y a une convergence nécessaire des différentes luttes, et le féminisme est quelque chose de complexe, donc vous travaillez cette notion de féminin pluriel, donc de quel féminin, de quel féminisme on parle, et qu'on peut avoir aussi, et encore, et ce qui est sain et démocratique, des divisions au sein des milieux féministes. Est-ce que nous, par exemple, dans la CLAC, on va travailler sur l'auto-outillage, l'auto-défense. Donc, on ne va pas avoir des actions comme le fait et comme sont nécessaires les actions qui sont faites par le collectif, à savoir de visibiliser par des manifs dans l'espace public des réalités statistiques, de montrer qu'ils sont des auteurs de violences, et que ça, on dit non. Et en même temps, ça témoigne de toute cette tension à la fois complexe mais nécessaire au sein des milieux actifs du féminisme français d'aujourd'hui. Comment on fait reconnaître que la justice n'est pas rendue pour les femmes? Donc comment on met en place une justice pour les femmes au niveau juridique et législatif qui soit efficiente, véritable et égalitaire avec les hommes? Donc on sait que la plupart des 99,4%, si je ne m'abuse, donc sur le nombre, des affaires pour viol sont classées sans suite. 7 femmes sur 10 vont voir un commissariat, elles sont tuées quand même. Une femme meurt sous les coups de son mari tous les 2 jours en France, et il n'y a pas 24 heures dans le monde sans qu'il y ait un viol. Donc il y a une urgence féministe. Il y a aussi une urgence de prise de conscience sociale, ça c'est le collectif qui s'en occupe, sur cette dimension de rendre public et de questionner que ce qui doit être dénoncé soit dénoncé. Nous, notre profil, il va être différent. On ne va pas être sur cette vague, en fait, qui est la quatrième vague du féminisme public, à savoir qui est liée à MeToo, qui est liée aux réseaux sociaux, qui est liée au fait de rendre une justice sociale, là où il n'y a pas une justice juridique. On n'a pas cette posture de rendre justice, même si évidemment on a une lutte pour les droits, mais on va s'orienter plutôt sur le fait de construire des outils, et aussi surtout d'être une espèce de cellule de recherche et de questionnement sur comment est-ce qu'on agit le féminisme aujourd'hui, et notamment pour ne pas construire des formes de féminisme qui sont nécessaires, à savoir de demander que justice soit faite, mais qu'on ne devienne pas finalement des espèces de dictateurs totalitaires et violents, pour le dire tout de go, qui voudraient simplement casser et punir du mec. Donc oui, il faut que les hommes, 98% des violeurs sont des hommes. Donc, attention, bien souvent quand on dit ça, il est entendu publiquement, puisqu'on est coincé dans une polarisation et des débats, 98% des hommes sont des violeurs. Non. Et donc justement, comment est-ce qu'on arrive à articuler toutes ces luttes qui sont différentes et complémentaires, parce qu'elles permettent de réclamer une justice avec tout ce que ça a de nuances à poser, c'est-à-dire on ne demande pas une répression, une criminalisation qui soit dure et violente, on demande qu'il y ait une prise en compte et une justice qui soit faite, mais aussi avec tout un pan d'éducation, parce que bien souvent, pour reprendre les féministes sociologues qui ont permis de comprendre la notion de charge mentale, que souvent la charge mentale incombe à la femme dans le couple, dans la famille. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y ait que les femmes qui seraient celles qui éduquent au féminisme? C'est encore une charge mentale pour la femme. Et en plus, il y a un hiatus là-dedans. Ça serait faire croire que toutes les femmes sont féministes et tous les hommes ne le sont pas. Or, les femmes participent aussi des mécaniques en fait sous-jacentes du féminisme, et cette construction n'est jamais finie. Moi-même, qui suis engagée à la fois au nom de l'association, mais aussi personnellement dans cette lutte pour le féminisme, et pas contre les hommes, de pouvoir enfin arrêter et sortir des débats stériles qui nous bloquent dans des circuits de généralité et qui nous empêchent de penser et d'avancer ensemble dans cette fameuse esprit de convergence des luttes. On peut saluer aussi, d'ailleurs, je n'en avais pas parlé, mais la Maison des Femmes, qui propose différentes actions, différents ateliers pour des femmes qui ont été extrêmement vulnérabilisées et qui ont besoin de pouvoir réadvenir à elles-mêmes, recommencer à être pour pouvoir continuer à devenir. Donc, et puis on a aussi, il y a plusieurs, là il y a un festival féministe qui a eu lieu pour la première fois dans le bassin minier, qui était sur Avion, qui a regroupé plusieurs mouvements. Donc comment on fait pour sortir aussi de l'entre-soi? Comment, si tous ces acteurs, actrices, pas à pas, doucement, se tissent entre eux pour créer du lien. Comment est-ce qu'à un moment donné, on fait aussi pour que ça ne soit pas juste un lien entre des personnes convaincues, et d'où le fait de proposer des événements multiples en fait, au moment de la journée de la femme, pour que chacun puisse piocher et aller voir ce qui fera sens en fait, pour cette personne à ce moment-là.
C'était un entretien avec Cassandre de La Claque. Cette asso arrageoise organise donc cette série d'événements intitulée Sorcière, avec comme invité Amande Art, qui est artiste, peintresse, conférencière, comédienne et conteuse. Alors, au programme, ce samedi 8 mars à 15h, contes et conférences pour adultes. Le rendez-vous pour les enfants à partir de 6 ans, ça sera le mercredi 12 mars à 10h30 et à 11h30. Et puis l'exposition des portraits peints par l'artiste est à voir du 8 au 12 mars aux horaires d'ouverture habituels de la bibliothèque ludothèque Ronville, à savoir le samedi de 10h à 12h15, de 14h à 17h, le mardi après-midi c'est de 14h30 à 17h45, le mercredi de 10h à midi et de 14h30 à 18h15.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend. S'il vous plaît, regardez-moi, je suis vrai. Je vous prie, ne m'inventez pas, vous l'avez tant fait déjà. M'avez aimé servante, m'avez voulu ignorante. Forte, vous me combattiez, faible, vous me méprisiez. Vous m'avez aimé putain et couverte de satin. Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue. Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut. Refusiez votre aide quand je ne vous servais plus. Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux. Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas, celle qui règne ou se débat. Joséphine ou la Dupont, fille de nacre ou de coton. Mais c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port, celle des monuments aux morts. Celle qui danse et qui en meurt, fille bitume ou fille fleur. Et c'est ma mère ou la vôtre. Une sorcière comme les autres.